L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Jan Leboeck. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, madame, et bonjour aux auditeurs.
Vous êtes agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Vous avez été professeur à l'université de Lyon 3, puis à la Sorbonne, où vous avez enseigné l'histoire romaine. Je dirais que vous êtes le spécialiste français de l'histoire militaire de Rome. Parmi les nombreux ouvrages de référence que vous avez publiés, je voudrais citer « Histoire militaire des guerres puniques », que je tiens pour un chef-d'œuvre de clarté et d'intelligence, « César, chef de guerre », « L'armée romaine dans la tourmente », qui relate la crise du IIIe siècle, crise dans laquelle Rome a failli être engloutie, « Alésia, Spartacus », plus récemment, une biographie de Lucullus, général et gastronome, que vous aviez bien voulu présenter sur cette antenne. Vous venez de publier aux éditions Talendier « La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire », un ouvrage de 325 pages vendu 20,90 €, qui se veut, je pense, un hommage et un complément au célèbre ouvrage de Jérôme Carcopino « La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire ». Et ce travail vient compléter un livre de fond publié en 2014, toujours chez Talendier, gros ouvrage de 445 pages, « La guerre romaine ». Monsieur le professeur, vous soulignez dans ces deux livres un point finalement déconcertant quand on y réfléchit, c'est le peu d'intérêt porté par nombre d'historiens et d'universitaires à l'histoire militaire de Rome. Est-il envisageable en fait de séparer l'histoire romaine de ses conquêtes militaires et de l'importance d'une armée qui si souvent lui donna ses chefs politiques?
Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier de la présentation que vous avez faite de ma modeste personne et vous dire que vous avez été trop gentille, trop généreuse avec moi. Pour répondre à votre question, je dirais que la responsabilité de ce silence sur l'armée romaine incombe aux marxistes et en particulier en France, l'école des annales. En effet, pour les marxistes, ce qui importe fondamentalement, vous le savez, c'est l'économie. Et donc, quand il y a une guerre, c'est l'État le plus riche qui doit finalement l'emporter, même s'il subit quelques défaites. Donc, pour eux, l'histoire militaire était sans intérêt. Et ils ont considéré pendant longtemps que c'était sans intérêt. Alors, nous avions eu en France la chance d'avoir quelques personnages, quelques universitaires plus courageux que les autres, plus dynamiques, moins bornés dans leur idéologie, et qui ont relancé cette histoire militaire. Et finalement, l'école des annales, assez récemment, s'y est ralliée. J'ai eu une surprise qui m'a beaucoup amusé et beaucoup indigné en même temps, lors d'une soutenance de thèse, où le candidat était allé voir un des représentants antiquisants de l'école des annales, qui lui avait dit que c'était grâce à l'école des annales que l'histoire militaire était revenue dans le cycle, l'ensemble de l'histoire. J'ai repris le candidat en lui rappelant quand même quelques dates, notamment les livres de Jacques Armand, qui sont bien antérieurs au ralliement de l'école des annales, et nous nous sommes arrêtés là.
Vous ne l'avez pas trop saqué ?
Oh non, je ne saque pas les gens pour ça. Vous savez, en fait, c'était une phrase dans une thèse de 500 pages. Je le dis simplement que c'était une erreur factuelle et qu'il fallait la corriger s'il voulait publier sa thèse.
Non moins paradoxal, vous affirmez que cette énorme machine de guerre que fut l'armée romaine, dont vous n'hésitez pas à dire qu'elle fut et qu'elle reste peut-être la plus efficace de l'histoire de l'humanité, n'a jamais été conçue comme un moyen expansionniste, mais en fait, qu'en vertu du vieil adage « Si vis pacem, para bellum », Rome fit la guerre pour ne pas la faire.
Oui, effectivement, c'est quelque chose que les historiens connaissent peu et qui pourtant est très important. On le trouve dans Cicéron, qui a développé ce thème, que les prêtres, qu'on appelait les fessiaux, avaient élaboré un droit de la guerre, que l'on appelle le droit des fessiaux, et ce droit des fessiaux interdisait aux Romains d'engager une guerre d'agression, de faire une guerre offensive. Toute guerre doit être défensive pour être à la fois conforme au droit et à la religion. très souvent, on oublie la religion. On parle du justum bellum, de la guerre juste, c'est-à-dire conforme au droit, parce qu'une guerre juste, l'expression n'a aucun sens. Une guerre conforme au droit et aussi conforme à la religion, les deux sont intimement liés. Et alors, l'Éphésio avait élaboré un système extrêmement complexe pour empêcher les guerres offensives. Il fallait d'abord que les Romains aient subi un tort, qu'ils envoient une ambassade pour demander réparation de ce tort, et ils ne pouvaient engager la guerre que si la partie adverse refusait d'accorder la réparation. Bien entendu, vous n'êtes pas naïve, nos auditeurs ne sont pas naïfs, je ne le suis pas moi non plus, et nous savons que quand les Romains voulaient faire une guerre offensive, ils trouvaient toujours un arrangement avec les dieux.
On a vu quelques cas pour les déclenchements des guerres contre la Gaule.
Voilà.
Qui s'appelaient d'ailleurs d'une certaine manière les fameux stratagèmes.
Il y avait les stratagèmes, bien entendu. Alors le stratagème, c'est assez amusant parce que les Romains en ont fait des recueils. Il y a un auteur qui s'appelait Frontin qui en a rassemblé 5 livres. Et alors les Romains avaient un jugement très curieux là-dessus. D'un côté, ils disaient le stratagème, c'est abominable, ça n'est pas conforme au droit de la guerre. Le droit de la guerre, pour eux, c'est les deux combattants qui sont face à face, les yeux dans les yeux, et qui combattent à l'épée, au glaive, bien entendu. Le stratagème, c'est abominable. Ça prouve la perversité du barbare, son esprit de trahison, de lâcheté, de tout ce que vous voulez d'abominable. En revanche, quand c'était un Romain qui inventait un stratagème, qui récupérait un stratagème, à ce moment-là, on disait « Oh, ça prouve son intelligence ». Vous voyez donc le paradoxe qui est derrière le stratagème.
Et comme vous le dites, on n'a pas attendu Sun Tzu pour découvrir que ça existait.
Aussi, oui, ça c'est quelque chose d'assez amusant. Vous savez, évidemment, ailleurs, l'herbe est toujours plus verte, bien entendu. Mais il y a un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de militaires français aussi d'ailleurs, qui parlent de Sun Tzu comme un grand inventeur. Écoutez, ils n'ont qu'à aller lire Frontin, ils verront bien.
Soldat et citoyen, monsieur le professeur, est-ce que pour un Romain, ces mots ne couvrent pas en fait à peu près la même chose ?
Non, non, non. D'abord, parce que tous les soldats ne sont pas, il faut préciser, citoyens romains. Donc tous les soldats ne sont pas citoyens romains. Il y en a, notamment chez les auxiliaires et dans la marine, qui sont ce que l'on appelait des pérégrins. Le mot veut dire étranger. Mais étranger sous-entendu libre, car pour être soldat, il faut être absolument libre. Donc, sous l'Empire, bien entendu, tous les soldats n'étaient pas citoyens romains. Et de même, tous les citoyens romains n'étaient pas soldats, parce que c'est une armée qui a des effectifs très limités, peut-être 300 000 hommes, 350 000, 400 000 au maximum sous le Haut Empire. Et l'Empire est immense, il y a beaucoup de jeunes gens. Le conseil de révision pouvait faire le choix, prendre les meilleurs de ceux qui se présentaient et beaucoup d'autres étaient renvoyés. On a l'attestation, la preuve que beaucoup de soldats, beaucoup de jeunes gens qui n'étaient pas pris dans la Légion mais qui avaient envie de faire une carrière militaire se portaient candidats pour entrer dans les auxiliaires ou dans la marine.
Vous vous intéressez plus spécialement dans ces deux ouvrages, à la période du Haut Empire, qui couvre approximativement les règnes allant d'Auguste à Septime Sévère, donc nous sommes après les grandes crises et les guerres civiles de la fin de la République, avant les grandes crises du IIIe siècle, c'est ce que l'on appelle la période de la Pax Romana, plus troublée ou demeurant que l'avoue la propagande impériale, parce que si un empire est en paix, a-t-il besoin d'une si grande armée, même si ses frontières sont très longues et très étendues ?
Mais d'abord, ce n'est pas tout à fait une grande armée, comme je viens de vous le dire. Réfléchissez aux plusieurs milliers de kilomètres qui entourent l'Empire romain et vous avez seulement 350 000 hommes au meilleur moment du Haut Empire.
Combien y a-t-il de personnes vivant dans l'Empire romain à la même époque ?
Alors, nous n'avons pas de statistiques.
C'est bien ce qu'il me semble.
Fiables, on pense aux environs de 60 millions d'habitants.
C'est-à-dire moins que la France actuelle.
Moins que la France actuelle, oui. Donc ce n'était pas numériquement une grande armée, c'était des effectifs qui étaient très réduits. J'allais vous donner une comparaison. Pendant la guerre d'Algérie, la France a eu jusqu'à 600 000 hommes en action sur un territoire qui était relativement limité. Donc c'est une petite armée, numériquement, et elle a en face d'elle un très grand nombre d'ennemis potentiels. Les Écossais, les Germains, ce qu'on appelle les Scythes, qui sont des Iraniens qui vivaient dans l'Ukraine actuelle, les Iraniens à l'Est, et puis beaucoup moins dangereux, n'en déplaise à certains historiens actuels, les peuples du désert égyptien et des montagnes du Maghreb actuel.
Et puis même de temps à autre, des peuples romanisés comme les Gaulois qui éprouvent des sursauts de révolte.
Cela arrivait, oui, il y avait quelques révoltes. Et en fait, les révoltes étaient finalement relativement rares. Les Romains avaient une technique de conquête qui était d'abord une guerre très violente. Quand ils pénétraient dans un nouveau territoire qu'ils voulaient annexer, ils massacraient, tuaient, incendiaient, pillaient. C'était, il faut le dire, incontestablement assez abominable. Ensuite, évidemment, les indigènes qui avaient vu ces massacres étaient forcément hostiles aux Romains. Mais petit à petit, la romanisation apportait ses bienfaits. Les gens étaient conquis par un genre de vie, un mode de vie qui était finalement très séduisant pour eux. Et au bout d'une ou deux générations, c'était terminé. Les provinciaux étaient quand même conquis. Ce qui fait que les révoltes avaient rarement un caractère, je mets le mot, l'adjectif entre guillemets, un caractère national. Ce n'était pas une révolte contre Rome pour l'indépendance. C'était une révolte pour obtenir que les impôts soient moins lourds, que les gouverneurs soient moins pinailleurs, que les juges soient moins sévères. C'était pour des détails de vie quotidienne et pas contre la romanité.
D'ailleurs, lorsque les Gaulois se révoltent contre Rome, il est frappant de voir qu'ils suivent toujours le modèle romain. Les empereurs gaulois du IIIe siècle suivent exactement le modèle romain.
Absolument. Ces empereurs gaulois, ce qu'on appelle les empereurs gaulois du IIIe siècle, étaient en fait des gens extrêmement romanisés et qui, au contraire, prétendaient défendre la Gaule contre les envahisseurs barbares en disant « Eh bien, le pouvoir central, l'empereur est incapable de nous défendre, c'est à nous de prendre en main notre propre destin. »
Ce qui est très paradoxal, parce que ça donne à la fois l'impression d'un sentiment national et en même temps d'un attachement à l'Empire.
Oui, mais les gens ont tous leur petite patrie. Hein. Les Gaulois étaient fiers d'être Gaulois. Vous me faites penser à un texte de saint Augustin qui reprend un de ses correspondants en lui disant « Mais tu es africain et tu as honte d'être africain. Mais au contraire, il faut être fier d'être africain. Nous devons en être fiers, c'est un orgueil. » Ce qui ne l'empêchait pas, évidemment, d'être un homme extrêmement romanisé.
Et d'écrire un des plus beaux latins de l'histoire.
Exactement, c'est certes saint Augustin, bon, c'est une petite parenthèse, ça n'a pas de rapport avec notre sujet, c'est quelqu'un qui est tout à fait admirable. Je trouve sa morale un petit peu austère, même très austère, mais pour le reste c'est un très très grand esprit qui a dominé tout le Moyen-Âge.
Et lire saint Augustin dans le texte, on reste quand même fasciné par la beauté de la langue.
Exactement.
Dans l'armée romaine, vous le disiez à l'instant, Yann Le Boeck, évidemment il y a des Romains. Mais assez vite, ils y seront de moins en moins nombreux à cause du nombre des soldats venus des provinces. L'on finira même à la fin de l'Empire par avoir des légions barbarisées, mais en même temps des légions extrêmement fidèles, puisqu'elles défendront l'Empire contre les autres barbares.
Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que les légions ont été barbarisées sous le Haut Empire. Au IVe siècle, c'est un autre problème.
On parle d'une époque plus tardive, effectivement.
Voilà. Et à partir du IIIe siècle, effectivement, le recrutement commence à changer. Mais le mot romain désigne deux choses. Quand un homme disait « je suis romain », ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire « j'habite Rome ». Un romain de Rome était romain, évidemment. Et ça peut vouloir dire « un provincial, mais qui a accepté toute la civilisation romaine ». Qui s'est romanisé, qui porte la toge les jours de fête, qui aime la cuisine à l'huile, qui parle le latin évidemment, qui respecte le droit romain, qui accepte tous les loisirs de la civilisation romaine. Ces loisirs étaient importants, hein, aussi bien pour les soldats que pour les civils d'ailleurs. Hein. C'était les thermes très fréquemment, aller se laver était un grand plaisir. C'était aussi les combats de gladiateurs qui sont moins esthétiques pour nous, gens du XXIe siècle. Et ainsi de suite.
En quoi que, on pourrait y revenir par les temps qui courent.
Je ne serais pas contre l'envoi dans l'arène de quelques personnages que je ne nommerai pas.
Oui, mais je crois qu'on est un certain nombre à se dire que ce serait une issue.
C'est une chose réunissue, effectivement.
Monsieur le professeur, je vous remercie. Je rappelle que vous publiez chez Talendier la vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire, un ouvrage que je recommande parce qu'il est d'un accès aisé et en plus souvent extrêmement drôle. Anne Le Boeck, merci encore à vous.
C'est moi qui vous remercie et qui remercie les auditeurs.